Alors, bien, merci pour cette petite introduction. Donc, nous, on a choisi de vous parler pour cette communication de l'authenticité sous une perspective historique, hein, ce qui était le sujet du colloque. L'authenticité étant une notion très couramment utilisée en didactique du FLE depuis plusieurs années. C'est une notion qui est apparemment transparente, mais qui semble aussi répondre à une doxa qui ferait consensus, ce qui mérite quand même d'être interrogé. Dès son apparition officielle en 70, dans les années 70, l'authenticité a donné lieu à des débats internes dans le champ de la didactique du FLE, et à cette époque, elle prend une place importante dans les discours, influençant enfin, immédiatement les activités des enseignants, tout en suscitant un questionnement à propos du maintien de ce caractère authentique dans la classe, dès qu'on utilise un document qui n'est pas prévu pour un usage pédagogique. En réalité, quand on observe les textes, on s'aperçoit que la réflexion à ce sujet est une réflexion qui bouge très souvent. Et si le document authentique est aujourd'hui largement utilisé dans les classes, ça ne signifie pas que le débat qu'on pourrait qualifier de théorique autour de l'authenticité soit complètement clos. Ça se manifeste notamment, par exemple, dans les dénominations qui désigne les documents authentiques et qui évolue dans les textes théoriques pour mettre en avant un aspect ou un autre. Par exemple, l'appellation document didactisé ou document pédagogisé va être utilisée pour insister sur le processus de détournement de l'usage premier ou sur justement l'accompagnement, la transformation quand l'enseignant rajoute des informations, par exemple. Mais on a pu trouver aussi dans les textes, hein, plus anciennement, des dénominations comme documents bruts ou documents sociaux qui insistaient davantage sur l'aspect non transformé et le fait que le document appartenait à un usage dans la société. Pour interroger ces évolutions historiques et pour mieux appréhender l'authenticité, nous avons choisi de revenir aux origines de la notion pour suivre son parcours. L'authenticité n'étant pas immuable en didactique du FLE, et bien qu'elle paraisse aisée à percevoir, elle ne l'est plus aujourd'hui et elle ne semble plus porter sur le document authentique, comme on a pu le dire à une époque, mais davantage sur la communication authentique, en tout cas dans les textes théoriques. On s'est donc demandé comment s'est opérée l'évolution et quelles sont les implications de ces modifications successives, notamment dans l'usage qui est fait de l'authenticité. Et ça nous permettra d'aborder à la fois la notion et ses fonctions. On a utilisé une méthodologie classique, hein, on a procédé dans un premier temps à une revue de la littérature en France entre 1900 et 2015, qui était la date fixée pour le colloque. Et puis, on a privilégié les ouvrages et les articles qui se traitaient spécifiquement de la question de l'authenticité ou qui apportaient une information pertinente sur le sujet. Les mots-clés retenus étaient documents, supports, ressources, documentation, authentique, didactisé, langues et cultures étrangères. C'est un choix qui a été motivé par le fait que ces mots dans les relevés nous ont paru les plus en usage sur la question. Et pour produire une synthèse des résultats, on a réalisé une analyse thématique de contenu en opérant des regroupements pour repérer des thèmes significatifs, on a mis en évidence des constantes ou, à l'inverse, des éléments contradictoires dans la conceptualisation des documents authentiques. On va suivre un plan très classique en suivant dans un premier temps une perspective historique et puis en observant la notion elle-même d'un point de vue plus diachronique. On commence au XIIe siècle avec l'utilisation du terme authentique, qui est attesté d'abord à cette époque-là dans la langue courante et qui désigne un document conforme à l'original. À la même époque, le mot document désigne ce qui sert de preuve et l'expression document authentique conserve aujourd'hui cette double acception de témoignage de l'usage réel des locuteurs de la langue cible et de document qui doit être conforme à l'original et non modifié. Dans des textes contemporains, hein, par exemple Kücklergruecker, Robert ou Robert Rosen et Reinhardt. Je fais un bond de plusieurs siècles et au début du XXe siècle, dans les instructions officielles de 1902, le terme authentique n'est pas utilisé, mais on a le terme document non fabriqué qui est mentionné et son aspect culturel est mis en avant. Il paraît prendre une importance grandissante, hein, dans les préoccupations des instances éducatives à partir de cette époque-là, Et Turenne indique que qu'en 1908, avec la méthodologie directe, des textes fabriqués et les textes littéraires sont utilisés avec en plus des documents de civilisation non littéraire qui seront introduits au niveau 2 et au niveau 3. Donc on ne parle pas d'authenticité à cette époque-là, mais c'est quand même le sujet de ces documents-là. L'utilisation de la notion, pas encore du terme, mais de la notion, s'étend ensuite à partir des années 20 avec la méthodologie active. Et puis, dans les années 70, dans la dernière période de la méthodologie audiovisuelle, alors qu'on nomme à cette époque enfin la notion d'authenticité, l'utilisation des documents authentiques est quand même considérée comme perturbatrice. Les méthodes audiovisuelles partent du principe que le niveau 1 est basé sur une progression mesurée qui ne permet pas l'intrusion d'un document dont on ne pourrait pas contrôler tous les aspects. Daniel Coste, en 70, préconise donc leur introduction progressive. Au niveau 2, l'élève sera de plus en plus souvent mis au contact d'un discours qui ne lui était pas d'abord destiné. Il appelle également à ne pas se laisser prendre par la tentation de l'authentique, à ne pas remplacer le modèle littéraire par un modèle authentique qui serait tout aussi dommageable que le précédent. On retrouve aujourd'hui cette mise en garde, par exemple chez Lairette, en 2010, qui voit dans cette notion une doxa qui s'est imposée dans l'enseignement des langues vivantes depuis plus de 40 ans. Et on verra justement par la suite que l'avènement des approches communicatives dans le courant des années 70 consacre la notion, constituant d'une certaine manière son heure de gloire. Et justement, en 1970, la dénomination officielle de document authentique et l'authenticité vont prendre leur vraie place dans le champ de la didactique des langues en France et notamment du français. C'est une émergence qui est concomitante aux évolutions technologiques et on peut supposer quand même que ça facilite l'introduction de l'authentique en classe avec des objets qui sont plus accessibles pour les enseignants, les photocopieuses, les magnétophones, etc. Le numéro 73, dont j'ai mis la couverture ici, de la revue Le Français dans le Monde, est généralement cité comme l'acte de naissance de l'authenticité en didactique du FLE. Et sa consultation montre qu'il mentionne, c'est l'avantage du PDF aujourd'hui, sa consultation montre qu'il mentionne 93 fois le mot authentique en 94 pages. Donc c'est vraiment le mot central de ce numéro. Dans son article publié dans ce numéro 73, Daniel Coste sous-titre Contre l'autorité de l'authentique et précise que l'expression retenue est un pis-aller et ne se laisse définir que négativement. Le texte authentique n'a pas été préparé à des fins d'enseignement du français langue étrangère. Et un peu plus loin, il dit, authentique entre dans la série de ces adjectifs valorisants, trop connotés pour être honnêtes. Il propose néanmoins un usage authentique des textes authentiques, l'un n'allant donc pas sans l'autre. Parmi les définitions les plus citées depuis cette époque, celle de Geneviève Zarate est également incontournable dans son ouvrage Enseigner une culture étrangère. Elle défend l'enseignement de la culture étrangère conjointement à celui de la langue, et elle propose de s'appuyer sur les documents authentiques car ils font entrer le réel, ils font entrer en trombe le réel dans la classe. L'authenticité est ainsi prioritairement destinée à la découverte de la culture cible par l'accès à des documents non fabriqués. Et plus récemment, dans le dictionnaire de français langue étrangère et seconde, il est indiqué que le caractère authentique désigne tout message élaboré par des francophones pour des francophones à des fins de communication réelles, ce qui est une conception très ouverte de l'authenticité, mais qui instaure en même temps une opposition entre la communication réelle de l'extérieur de la classe et le fabriqué de l'apprentissage, le scolaire, la communication en classe qui justement ne serait pas réelle. Étant donné le succès de l'authenticité, on peut légitimement s'interroger sur sa fonction, sur l'intérêt qu'a représenté son introduction dans les discours didactiques, notamment dans les années 80-90. Dans les ouvrages théoriques qui présentaient l'approche communicative, c'est une notion qui permet d'amener une opposition franche entre le document fabriqué et son pendant authentique. Et donc, entre les méthodologies qui précèdent l'approche communicative et l'approche communicative. Véronique Castellotti indique notamment que la justification première et la plus explicite semble relever d'une volonté de donner tout son sens à un enseignement de langue vivante. Les méthodologies audiovisuelles sont critiquées dans un mouvement qui semble vouloir séduire les enseignants qui sont désireux de changement à cette époque-là, parce qu'elles imposent un déroulement fixe aux activités d'enseignement, et donc avec l'approche communicative, ce sera plus libre, et parce que les ressources utilisées sont spécifiquement conçues pour ce domaine et seraient donc limitées, alors que là aussi, hein, le document authentique, lui, serait infini. D'autres auteurs identifient les difficultés pour les apprenants dans le transfert des savoirs acquis en classe à partir des documents fabriqués. Et donc là aussi, hein, on met en valeur le document authentique qui permettrait cet accès à un apprentissage en situation. Les documents authentiques paraissent donc particulièrement pertinents à l'époque pour développer chez les apprenants des compétences transposables à des situations de communication réelles, puisqu'ils favorisent des moments de contact ou de découverte de la langue cible, chez Boulton et Time, par exemple. Ils sont perçus comme des moyens efficaces pour faire entrer en trombe le réel dans la classe, comme je l'ai déjà dit, et pour motiver les élèves en leur offrant la fiction d'une relation directe avec la culture étrangère, mais qui reste une fiction. L'intérêt des documents authentiques est également de laisser virtuellement la place à de multiples possibilités pour l'enseignant. Le caractère authentique du document va entraîner une mise en scène des faits culturels qu'il présente et permet de la sorte une mise en avant de la véracité et de la crédibilité de ce même document. L'enseignant devient alors un médiateur. Il permet aux apprenants d'accéder à la culture cible en choisissant des documents authentiques qui sont représentatifs des faits culturels qu'il souhaite présenter. Dans cette configuration, l'apprenant est confronté à des contenus culturels similaires à ceux que reçoit le natif, et la langue est alors associée à la culture dans un apprentissage commun. À la fin des années 70, les didacticiens en arrivent à analyser l'authenticité de la communication dans la classe, mais c'est une notion qui, on le voit, s'est beaucoup étendue, et les limitations prudentes du début, en tout cas l'appel à la limitation, n'ont pas été entendues. Le document authentique est aussi utilisé à tous les niveaux, hein, et c'est la ressource principale dans beaucoup de cours de français, langue étrangère, du moins en tout cas dans les textes didactiques, c'est ce qu'on lit. Dans les années 2000, avec l'émergence de l'approche actionnelle et la publication du cadre européen, on a essayé d'observer aussi ce qui se passait pour cette authenticité, et on s'aperçoit qu'il y a une sorte d'actualisation de la notion. Dans le cadre européen, la priorité est donnée aux documents dits non trafiqués, le choix de ce terme pouvant indiquer un parti pris assez négatif face à ce qui n'est pas authentique dans la classe. Il est question de confronter l'apprenant à des textes entendus au sens large de documents oraux ou écrits dans le cadre d'activités langagières qui sont réalisées par le traitement de ces textes. Le développement de stratégies est primordial pour le traitement des documents. Et il se place au premier plan dans le cadre des tâches que l'apprenant doit réaliser en classe. Ces tâches incluant elles-mêmes des activités langagières, compréhension et production orale et écrite en continu, interaction orale écrite et médiation. Le cadre européen n'indiquant aucune précision sur ces textes, la focalisation est déplacée du document vers la tâche qui justifie son utilisation. Et on voit bien qu'il s'agit là d'un repositionnement, voire d'un affaiblissement de l'intérêt pour l'utilisation des documents authentiques dans les discours didactiques. Alors, ça ne signifie pas qu'on ne les utilise plus, bien au contraire, hein, comme dans les projets, mais ils ne sont plus au centre de la réflexion, tout comme l'authenticité qui va de soi désormais et qui ne suscite plus de questionnement.
Alors, je prends la suite. Alors, comment définir ou plutôt redéfinir les documents authentiques ? Alors, comme l'a dit Estelle tout à l'heure quand elle a repris la définition de Jean Percuc, aujourd'hui, pour beaucoup de didacticiens et d'enseignants de langue, un document authentique renvoie à un document qui provient de l'espace extérieur au cadre de l'apprentissage et qui est présenté dans son intégrité originelle. Donc, la notion s'applique à tout type de support, hein, oraux, écrits, iconiques, audiovisuels, électroniques. Pour Navarchi, l'adjectif authentique renvoie à un ensemble très divers de situations de communication et de messages qui couvrent toute la panoplie de la vie. Tu peux... En fait, on n'a pas le bon PowerPoint. C'est pas grave. Tu peux passer la slide. Voilà, merci. Donc, Chambers montre que cette définition est remise en question, même si elle reste acceptée dans le contexte de l'apprentissage des langues. Donc, pour certains, elle ne devrait pas prêter à débat, notamment pour Robert Bouchard, hein, pour qui l'adjectif authentique n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais dont l'intérêt est juste de permettre de distinguer ce qu'est un document authentique d'un document pédagogique ou fabriqué pour la cause. Voilà. Les auteurs de matériel pédagogique, hein, destinés notamment aux apprenants débutants, tentent à présenter aujourd'hui des textes qui ressemblent à des documents authentiques. Alors, on relève différentes manières de dénommer ces documents presque authentiques. Par exemple, chez De Bézieux, à côté de la notion donc, de document authentique, on trouve les notions de semi-authentique ou de réaliste, qui correspondent pour elle à des interactions réelles qui ont été enregistrées en situation, mais qui ensuite vont être réenregistrées en laboratoire pour une meilleure qualité sonore ou pour des raisons éthiques de droit aux personnes, de droit des personnes enregistrées. Adami, lui, décrit un continuum qui va des documents authentiques aux documents fabriqués. Et il articule six catégories différentes, les documents bruts, les documents réformés, les pastiches, les réalistes, les fabriqués et les artificiels. Bailly, elle, préfère faire une catégorisation plus réduite, hein, avec trois éléments, le document authentique ou brut, qui sont élaborés par des natifs pour des natifs, les documents didactisés qui sont des documents authentiques mais qui ont été adaptés ou modifiés, et les documents didactiques qui, eux, sont des documents fabriqués par l'enseignant ou les auteurs de manuels, mais et qui sont le plus souvent destinés à des apprenants débutants. Donc, les déclinaisons de la notion de document authentique qu'on vient de décrire permettent d'identifier des angles de vue variés liés à ces usages toujours fréquents en didactique des langues. Cette notion revêt des formes modulables en fonction des besoins didactiques liés aux différentes compétences langagières et culturelles, interculturelles, ainsi qu'au type de ressources qui les supportent dans leur diversité. Donc, la géométrie variable de cette notion invite à prendre la mesure des dépenses et des économies conceptuelles. Les didacticiens s'accordent généralement pour dire qu'un document authentique permet à l'apprenant d'accéder plus facilement et rapidement à une compétence communicative qui inclut donc la langue et la culture. Pour l'oral particulièrement, l'utilisation de documents authentiques permet de dépasser une conception de la langue parlée comme lieu de déviance. Donc, le terme est de Bézieux. Et cette utilisation permet une sensibilisation aux variations comme aux spécificités de l'oral. Comme l'a dit tout à l'heure Estelle dans l'historique de la notion, on considère toujours le caractère même d'authenticité qui favorise l'engagement des apprenants dans le processus d'apprentissage. Et même si la richesse de ces documents peut poser des difficultés aux apprenants, notamment aux débutants, le rôle de l'enseignant consiste à assurer une médiation en choisissant des exploitations spécifiques, souvent partielles, qui les aident à se repérer. Alors, on vient d'évoquer un aspect problématique, hein, de l'utilisation des documents authentiques, à savoir leur complexité. Les publications identifiées dans le cadre de notre recherche ont montré un certain nombre de discussions liées à la notion de document authentique. Plusieurs auteurs, comme Adami et De T, montrent qu'ils correspondent surtout à des documents écrits, même pour les chansons ou les émissions télévisuelles, hein, en fait, qui correspondent mais à de l'écrit oralisé. Ils décrivent les problèmes d'accès à des documents authentiques oraux. Et Chambers démontre que même lorsque des plateformes spécifiques sont conçues pour exploiter des enregistrements de locuteurs natifs des langues cibles, le temps de maîtrise de ces plateformes est tellement important que ça représente une contrainte pour l'utilisation de ces documents dans les activités d'apprentissage. De Bézieux, elle, décrit la faible utilisation des documents authentiques pour travailler l'expression orale. Et sans doute que c'est lié au fait que, à la complexité de ces documents pour les enseignants. On voit aussi que les documents authentiques vieillissent vite, Il se périme surtout quand il se réfère à l'actualité, ce qui va, qui peut induire hein, de fausses représentations sur les pratiques culturelles. Alors, les didacticiens pointent aussi la perte de l'authenticité lorsque le document est décontextualisé avec une communication ou une utilisation différée. Cette critique se retrouve dès lors que le document initial est modifié. Zarat, elle souligne cet aspect artificiel de la transposition d'un document dans la classe. Elle insiste sur la mise en scène nécessaire du document. Donc là, l'authenticité apparaît comme une convention, notamment dans les manuels où les documents apparaissent accompagnés d'un paratexte pédagogique qui enlève une grande part des caractéristiques premières du document. Bourdet pose d'ailleurs la question de savoir ce qui reste de l'authenticité de ces documents, publicités, journaux, messages radiophoniques, qui sont faits pour être lus, écoutés dans la rue, la maison, à la radio, et qui sont proposés hors de leur contexte. Séoud, lui, va parler d'authenticité inauthentique pour rendre compte des difficultés que pose ce transfert dans la classe du document authentique. Adami, tout comme Boulton et Tyne, signale aussi les difficultés de compréhension de ces documents. Du point de vue du sens comme de l'interprétation, l'apprenant peut ne pas être suffisamment compétent face à ces documents. Et dans le cas de l'interprétation, le phénomène de dénivellement interprétatif est particulièrement sensible et peut donner lieu à une interprétation fausse du document. Et cette interprétation fausse peut même venir de l'enseignant, pas uniquement de l'apprenant. Donc, pour contrer ce phénomène, Abdallah Pretseil conseille à l'enseignant de recueillir un corpus de représentation. Et Moiran, elle, propose de privilégier des documents écrits, qui sont plus simples à recueillir que les documents audio. Pour Bouchard, ces questionnements s'avèrent finalement liés au traitement du document pour les activités d'enseignement et d'apprentissage. Avant d'être présenté aux apprenants, l'enseignant didactise les supports choisis en leur faisant subir un traitement technologique. Alors, pour conclure, la notion de document authentique a évolué en parallèle des méthodologies qui se sont succédées. Elle présente une géométrie variable et renvoie à une hypercatégorie constituée de ressources variées qui viennent s'articuler au document semi-authentique, fabriqué, réaliste, utilisable par les enseignants dans leur pratique de classe. Aborder la notion de document authentique dans ses différentes dimensions met au jour sa complexité, la nécessité de former les enseignants à les exploiter, notamment avec l'explosion d'Internet et des ressources en ligne. Le travail de didactisation provoque la perte de l'authenticité, comme on l'a vu, dans une perspective formative. Il nous semble pertinent de sensibiliser les enseignants à cette perte d'authenticité liée à la didactisation. Les utilisations des TIS s'accroissent et accroissent l'accès à un ensemble pléthorique de ressources susceptibles d'être utilisées dans les activités d'enseignement. On doit donc penser à la place de l'éducation aux médias dans la formation des enseignants et des apprenants. Donc, on peut dire que ces questions s'avèrent encore vives et d'actualité dans le champ de la didactique des langues et des cultures étrangères, et bien, bien loin de la banalisation des utilisations de documents dits authentiques. Et pardon à Véronique Castellotti, on a oublié un T dans ton nom de famille dans le PowerPoint.
J'ai fait trop.
Nos excuses.
Pardon.
Voilà, on est prêt à écouter vos questions.
Alors, on a une bibliographie qui fait 3 diapos, donc je peux la montrer. Enfin, là, pendant les 2-3 minutes, peut-être, je vais passer une diapo après l'autre. Je sais qu'on fait parfois des captures d'écran si ça intéresse ceux qui ont écouté.
Merci. Merci à toutes les deux. Donc, en fait, on va avoir à peu près jusqu'à 9h27, 27 et des pâquerettes pour amorcer la discussion. Merci du panorama synthétique autour de la notion dans la littérature. Voilà, je vais laisser la parole à la salle.